Ce qui suit est une production de WebWest Balado. Entendons-nous bien.
Quand j'étais adolescent, en 1996, j'ai vécu de près une inondation, le déluge du Saguenay, où du jour au lendemain, des millions de litres d'eau de pluie ont fait déborder des rivières jusqu'à créer des torrents qui ont brisé des barrages et emporté des routes et des maisons. Le bassin, le quartier d'enfance de ma grand-mère à Chicoutimi, au Québec, a complètement été dévisagé par cette tragédie dont on parle encore aujourd'hui. Un an plus tard, en 1997, les nouvelles nationales me faisaient voir une autre inondation monstre, celle du Manitoba, avec son inondation du siècle. C'est avec beaucoup de compassion que je regardais tout ça de loin, depuis mon Québec natal, sans me douter que ceux qui allaient devenir mes meilleurs amis 20 ans plus tard étaient en train de remplir des sacs de sable pour sauver leurs maisons, leurs écoles, leurs villages. Quelques années plus tard, lors de mon passage au sein des forces canadiennes, j'ai rencontré un caporal qui avait une pince à la place de sa main droite. J'ai su plus tard que c'est un accident durant l'inondation de 1997 au Manitoba, alors qu'il était en chaloupe pour aller aider des sinistrés. Il y avait un câble électrique qui flottait dans l'eau devant la chaloupe. Et par réflexe, il l'a pris pour l'enlever du chemin. Il n'a pas pensé. Vous devinez la suite. Cette histoire et les images que m'avaient envoyées les nouvelles de Radio-Canada, c'est tout ce que je savais des inondations manitobaines. Mais quand je suis arrivé au Manitoba en 2001, j'ai vite compris que les inondations font partie de la vie sur le bord de la rivière Rouge. 1826, 1852, 1861, 1950, 1966, 1974, 1979, 1997. Et depuis que je suis ici, j'ai vécu 2009, 2011 et 2022. Maintenant, mes enfants font partie d'une lignée de francophones établie sur le bord de la rivière Rouge depuis 1877. Quand je suis né, ils étaient là depuis déjà 100 ans. Ils savaient au moment de s'y établir que leur terre était l'une des meilleures terres agricoles du pays, la vallée de la rivière Rouge, parmi les terres les plus riches et les plus fertiles du Canada. Mais ce qu'ils savaient pas, c'est que ça inonde à tous les 10 ou 15 ans. Au-delà des images sensationnelles que nous envoie la télé, des images de champs transformés en grands lacs, des maisons à moitié submergées, des images de la rivière Rouge large de 42 km alors que normalement, elle fait moins de 100 mètres, au-delà du sensationnel, j'étais curieux de comprendre comment les gens sur le terrain vivent les années d'inondation, les stratégies concrètes pour les affronter, leur façon de s'adapter à cette réalité. Et pour ça, je suis allé visiter la ferme familiale où ont vécu 5 générations de Baudette. Mes fils, Pierrot et Jacob, étant la 6e génération. Et avec eux, je suis allé visiter leur oncle Régent qui habite la maison ancestrale sur la ferme familiale. On s'est rendu avec leur grand-père Denis, qui est né un 21 mai 1950 en pleine inondation. J'y suis allé le 23 mai dernier pendant l'inondation de 2022 et j'ai décidé d'en faire un balado. Je m'appelle Yann Dallaire et voici D'une flotte à l'autre.
Pierrot, qu'est-ce que tu vois là?
L'eau est presque au sommet des petits arbres. Il y a des piles de bois partout et puis en arrière, il y a beaucoup, beaucoup, extrêmement, énormément d'eau.
Et normalement, puis, ça ici, ça serait comment?
Comme 5 fois plus, moins d'eau. Et là, je vois la ferme moi aussi.
On est dans un bateau?
Oui.
Normalement, on va-tu à la ferme en bateau?
Non. Généralement, on va à la ferme en voiture.
Ça, c'est la route ici, Pierrot. On est sur la route, là. La route qui va à la maison.
Après avoir fait un détour d'une 60aine de kilomètres pour se rendre au village de Saint-Jean-Baptiste en voiture, Régent nous ramasse en chaloupe dans le stationnement de l'église. Il nous amène jusqu'à la butte, mais avant d'accoster, on fait un détour par la chaîne de tôle
qui baigne dans 4 pieds d'eau.
Et tout ce qu'il a dedans, c'est enlevé?
C'est tout détruit, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Parce que les vagues sont venues, et puis ils ont tout cassé, tout. Même le garage là-bas, ouais. le côté, oui. La porte du garage, tout est détruit, tout est cassé. Et puis, ça va prendre tout l'été à nettoyer le dégât. Regarde, tout le bois qui est resté, toute la paille, ça va prendre tout l'été à nettoyer et puis toute l'année prochaine.
Merci.
La ferme comptait là 144 ans. En 1877, l'arrière-grand-père s'est installé ici. Mon père est né en 1902. Et puis, c'est la ferme paternelle. On est tout près de la rivière Rouge. On a une belle terre ici, le long de la rivière. Alors, c'est là qu'on est à la ferme paternelle, ici, à 80 km au sud de Winnipeg. C'est de la très, très belle terre. On parle de probablement une des plus belles terres. C'est le gumbo. Mais le gumbo, l'avantage, c'est que ça tient bien l'eau. Ça peut endurer beaucoup de sécheresse. Et puis, le gumbo, c'est très nutritif. Alors, c'est une... Quand on parle des terres de rivière, là, c'est de la bonne terre agricole, tout le long de la rivière Rouge.
Ça, c'est Denis Baudette, le grand-père de mes enfants. Je lui ai demandé de me raconter comment ça se vivait, les inondations à la ferme dans le temps. Denis, en plus de grandir ici, sur la ferme, il est né en plein milieu d'une grosse inondation.
Moi, je suis né en 1950. Alors, bien sûr, on m'a parlé beaucoup de la flotte de 50. Mais déjà, en 48, il y avait une inondation qui a fait que la maison que notre père avait construite en 1947, la maison avait quand même 12-14 pouces d'eau sur le plancher en 1948. Il faut imaginer, il y a beaucoup de petites fermes, des fermes sans aucune digue, la plupart des gens sans bateau moteur, et puis des animaux, tout le monde avait des animaux, surtout des poules et puis des vaches et puis quelques chevaux. L'an 50, là, ça a été le gros coup. Parce qu'en 50, c'était la grosse inondation, parce que même Saint-Boniface, l'hôpital Saint-Boniface a été inondé ici à Saint-Jean-Baptiste. Aucune digue autour du village, c'est-à-dire l'église, le couvent, l'école, tout a été massacré. On a des photos en noir et blanc, des vieilles photos, où est-ce que c'est qu'on voit des voitures dans le milieu de la rue, au niveau des fenêtres, là, recouvertes d'eau, dans le village de Saint-Jean-Baptiste. Alors, les gens étaient vraiment coincés. Puis dans ce temps-là, il n'y avait pas l'aide pour se faire évacuer, etc. Alors, en 50, ça a été pénible pour mon père et ma mère. Ma mère était enceinte de moi pendant l'inondation de 1950. C'est là qu'elle a eu l'aide de l'armée. Apparemment, que c'est un bateau amphibie. Elle est montée sur un bateau amphibie avec les soldats pour se rendre en terre ferme pour me mettre au monde le 21 mai 1950 à Saint-Pierre, parce que Saint-Pierre, c'était bien protégé.
Ils t'ont pas appelé Moïse.
J'avais un oncle, Jerry Champagne. Lui, il voulait que ma mère m'appelle Moïse quand je suis né. Mais ma mère, elle connaissait assez l'anglais pour savoir que ça deviendrait un petit Moses. Alors, au lieu d'être un Moïse, ben, je suis resté un petit Moses, mais avec le nom de Denis.
On dit qu'une image vaut mille mots, mais quand on fait des balados, c'est plutôt mille mots valent une image. Alors, une fois accosté sur la butte, j'ai demandé à mes enfants de nous décrire ce qu'ils voyaient et qu'est-ce qu'il y a de différent. Pierrot a 9 ans et Jacob a 6 ans.
Ben, il a une maison qui est tout brisée. Il y a un tracteur qui est rempli par l'eau,
qui
est presque sous l'eau.
Oui.
Et la chaîne de tôle est tout brisée.
La chaîne de tôle est tout brisée. T'as-tu déjà vu ça aussi inondé que ça?
Non, j'ai vu la ferme inondée. Il devrait avoir une route ici qui monte jusqu'en haut de la butte. Et puis ça devrait être tous des champs. Et puis ça devrait pas être une rivière.
C'est comme un océan!
Les poteaux électriques sont complètement sous l'eau. Ben, presque complètement sous l'eau.
Normalement, il y aurait une route, là?
Oui.
Une route et du gazon.
Une forêt peut-être aussi par là?
Ouais.
Puis là, qu'est-ce qu'on voit?
Juste l'eau.
T'aimes-tu ça venir à la ferme?
Oui, oui.
Mais pas quand c'est inondé. Je préfère quand c'est pas inondé.
T'as plus de place pour jouer quand c'est pas inondé?
Oui! Je suis impressionnée que, si je regarde par ici, là, il y a de l'eau à perte de vue.
Pierrot a raison, c'est très impressionnant. Sur la butte, on est littéralement sur une petite île au milieu d'un grand lac. Régent m'invite à aller marcher et en faire le tour.
Cette butte a été bâtie quand ils ont creusé l'étang. Alors, toute la terre de l'étang et sur la butte maintenant.
Tu dirais-tu que la butte a été faite pour les inondations?
Oui.
Oui, OK.
C'est pour ça que l'étang a été fait, c'est pour prendre la terre.
Fait que là, la stratégie, c'est quand ça arrive, vous montez toute sa butte?
Tout ce qu'on veut sauver, oui. Cette année, on a manqué notre coup. On a perdu un vieux tracteur qui a été flotté. Le vieux Massey, qui est encore dans la chaîne. On avait une crevaison et puis il était pris dans la boue.
vent de 95 km à l'heure. Et puis, ça faisait des vagues. On a perdu 15 pieds de terrain ici. Le gazon allait jusqu'aux arbres là-bas. Maintenant, mais l'érosion a tout emporté.
C'est une plage. Vous avez une plage.
Maintenant, c'est ça. C'est une plage. Une plage de gravelle. Ça, c'est le barrage du castor.
OK, t'as une famille de castors, là.
Ben, juste un. Mais ça fait du grabuge.
Mais c'est depuis quand, ça?
Depuis que l'eau était haute.
Ah, OK. Ouais. Cette année, ça?
Oui, oui. Un autre projet à nettoyer.
Va falloir que tu démolisses une hutte de castors.
Oui.
Si je me rappelle de la ferme avant, c'est un terrain bien entretenu, c'est pelousé, les arbres sont beaux. Puis là, avant de retrouver ça...
Ah, ça va être des années.
Parce que là, ça amène du gravier, du sort.
Des débris, des branches. Ça, c'est un billot de bois de, je sais pas, au moins 400 livres. On va le couper en petits morceaux, puis on va le brûler. Mais ça prend des mois, des années.
Puis il y en a une trentaine là, de ces billots-là sur le bord.
Ça, c'est juste ici. Le pire, c'est pas l'eau, c'est quand l'eau, elle s'en va. Et puis les surprises qu'on trouve en dessous. Alors, qu'est-ce qui flotte? Ça flotte, mais il y a des choses cachées qu'on voit pas jusqu'à temps que l'eau elle parte. Non, le pire cette année, c'était la paille. J'ai été pris en bateau, on pouvait plus voyager dans la paille parce que c'est tellement épais, ça flotte. Et puis là, ton hélice poigne. Et puis j'ai chauffé le moteur parce que l'entrée d'eau était bloquée.
Puis imagine le travail, hein, le travail pour tout remettre la cour en ordre après ça. Puis, alors c'est ça. Et puis ça, c'est pour la grande inondation de 1950, où est-ce que c'est qu'il n'y avait aucune protection. Et puis il y avait beaucoup de petits fermiers qui étaient dans la même situation. Puis dans ce temps-là, on n'était pas évacués, là, on se débrouillait pour sauver sa maison, puis etc. Mon père m'a raconté comment c'est que c'est que, je sais pas, avec des piquets de clôture, puis dans ce temps-là, on avait notre propre scierie, on coupait les arbres, tout ça, pour se faire des billots et tout. Alors, ils avaient remonté le plancher de l'étable assez haut pour que le dos des vaches touchait le plafond de l'étable. Puis à la fin, au plus haut, là, les vaches, il y avait les pattes à l'eau. Alors, c'est pour te dire comment est-ce qu'il y avait de l'eau. Mon père avait encore des chevaux, c'était pas encore le temps des tracteurs. Et avec ses chevaux, à cause de l'inondation, ils ont décidé, avec un voisin qui, lui, avait un petit bateau moteur, ils ont décidé de sauver la vie des chevaux et puis de leur permettre d'aller en terre ferme. Alors, ils ont attaché les chevaux derrière le petit bateau moteur. Et puis, probablement que le petit bateau moteur avait pas assez de puissance. Alors, il n'arrivait pas à monter assez contre le vent et contre les vagues et contre le courant. Puis éventuellement, le bateau s'est approché des clôtures qui étaient sous l'eau. Et puis là, les chevaux se sont coincés dans la clôture, puis les deux se sont noyés. Alors ça a été assez fatal sur le plan affectif et sur le plan moral de mon père. Alors notre père puis mon oncle Aimé, ça a été la fin des chevaux. Là. Ils sont passés au moteur à kérosène et puis au tracteur à essence à partir de ce moment. Alors ça a été très, très pénible pour mon père.
Il y en a qui parlent de cette inondation-là comme, même si c'est celle de 1997 qui est considérée comme l'inondation du siècle, il y a certaines personnes comme ton frère Gérard qui dit la plus difficile puis la plus grosse, entre guillemets, c'est 1950, parce que c'est celle-là qu'on avait moins de moyens.
Les dégâts ont été moins graves en 1997, malgré la hauteur de l'eau, qu'en 1950, parce qu'en 1966, il y a eu une petite inondation. Bien, petite dans le sens qu'il y avait un pied d'eau sur le plancher de la cuisine. Alors, moi, j'avais 16 ans, et puis j'allais à l'école avec deux pensionnaires et ma petite sœur à l'école pendant un mois en bateau. On stationnait le bateau au pied de l'escalier, on montait au deuxième étage. Puis, quand on a 16 ans, tout est excitant. Alors, c'était des beaux souvenirs. Puis là, on avait déménagé on avait peut-être 7-8 vaches, et puis chez un cousin, chez Armand Sabourin, à 6 000 plus loin. Et puis, tous les jours, avec mon père, on prenait le petit bateau, le petit 14 pieds... avec le petit moteur McCulloch de 7 forces et demie, on venait chercher 2-3 balles de foin et puis un peu de moulé qu'on avait entreposé dans le grenier du poulailler. Puis on ramenait ça à la ferme. Je me souviens, c'était froid. Il fallait casser la glace tous les matins pour faire boire les vaches. Et moi, à ce moment-là, j'allais à l'école à Saint-Pierre pendant ce temps-là. Alors, en 67, après l'inondation de 66, nos parents, ils ont décidé de rélever la maison. Alors, ils ont construit un nouveau solage juste à côté de la maison actuelle. Puis là, avec l'aide de l'oncle Gérard Champagne de Saint-Norbert, ils ont tout simplement levé la maison et l'ont roulé dessus. Ça veut dire que la maison est beaucoup plus haute, qu'elle l'était en 66. Ce qui fait que, en 1997, mon frère Florent habitait ici. Et puis, il a fait mettre une grosse digue en terre autour de la maison avec des camions du village de Saint-Jean-Baptiste qui était en train de creuser un lagoon, un étang pour les égouts de Saint-Jean-Baptiste. Alors, tous les camions, ils venaient mettre leur terre. Alors, on avait une belle grosse digue autour de la maison.
De la maison comme telle ou ouais,
de la propriété? Oui, de la maison.
De la maison, okay. Maison
ouais. Mais l'armée a obligé les gens à quitter. Et puis, le lendemain, il y a eu des vagues et puis l'eau a passé par-dessus de la digue. Alors, il y a quand même eu 3-4 pouces d'eau sur le plancher. Alors, il y a eu quand même des dégâts. Avec le sous-sol, bien sûr, complètement rempli, mais ça a été moins pire que ça l'avait été dans les années précédentes. Alors ça, c'est 97. Alors là, le flood board, ils ont dit, bon, on va aider les fermiers à relever leur maison ou bâtir une digue autour.
Ça, c'est le gouvernement.
Le gouvernement, oui. J'ai un frère qui est ingénieur mécanique, Gérard, puis il a conçu une digue en béton qui a été approuvée par le département des inondations de la province. Alors c'est là qu'ils ont commencé les travaux à construire une digue en béton tout autour de la maison. Avec la possibilité de rajouter des feuilles de contreplaqué de 4 par 8 pour protéger contre les vagues. Alors, c'est ça qu'on a cette année, en 2022. Alors, la maison a été très bien protégée, sans problème. Les grands vents ont fait sauter les vagues, pas par-dessus le contreplaqué, mais ça s'éclatait contre le contreplaqué. Mais la maison était complètement protégée avec les pompes qui continuent à reprendre l'eau qui vient par en dessous des digues, etc.
Il y en a qui ont fait d'autres choix après 97 pour protéger leur maison.
Ben, c'est un petit peu ce qu'on voit quand on prend l'autoroute, la 75 de Winnipeg à Emerson. Il y a des maisons, comme surtout à Saint-Adolphe ou en sortant de Saint-Norbert, des maisons qui... Je pense bien que les gens, s'ils sont debout dans le salon, il faut quasiment qu'ils se mettent sur le bout des orteils pour voir l'autre bord de la digue. Alors, il y a des gens qui ont choisi parce que le gouvernement a dit ben, soit vous mettiez une digue ou bien vous rélevez vos maisons. Alors, ça a été la dernière le gros investissement pour aider les fermiers à.
Ou soit choisi. Vous déménagez, puis il y en a beaucoup qui ont choisi ça.
Ah oui,
aussi.
T'as bien raison, Yann, j'avais oublié de te dire ça. Mais tout le rencroche qu'on appelle ici le long de Sainte-Marie, il y a beaucoup de ces fermes-là. Ils ont tout simplement déménagé leur maison complètement. Il y en a qui sont allés à Saint-Malo. Il y en a plusieurs qui sont allés au village de Saint-Jean-Baptiste, à l'intérieur de la digue. Alors, c'est ça, c'est dommage, parce que le côté est de la Rivière-Rouge a perdu beaucoup de ses habitants qui avaient été inondés. Et ces gens-là sont allés ailleurs avec leur maison.
Les inondations au Manitoba, contrairement à celles du Saguenay que j'avais vécues en 1996, on a habituellement le temps d'y voir venir. Les autorités nous les prédisent et l'eau monte quand même assez tranquillement. Dans le cas de la ferme Baudette, on comprend qu'ils ont besoin de temps pour installer leur digue, monter les feuilles de contreplaqué, sceller tout ça, installer les pompes, s'assurer qu'on a des génératrices, qu'on a de l'essence et que tout ce qu'on voulait protéger a été monté sur la butte. Mais là, quand l'eau arrive, qu'est-ce qu'on fait?
Moi, il faut que j'aille travailler. Ma femme aussi doit aller travailler. Alors, c'est plus compliqué. Elle a pu travailler de la maison, mais seulement un bout de temps. Moi, ben, il faut que j'aille au village. Hein?
Fait que ça se passe en bateau. Tu prends le bateau, tu t'en vas au village, tu vas travailler, tu reviens en bateau.
C'est ça.
Mais faut pas garder quelqu'un... Pour garder le forge,
idéalement, ça, oui. On a eu des problèmes avec la pompe pour évacuer l'eau. Si on manque d'électricité ou s'il y a un problème, on a eu le breaker qui lâchait, les disjoncteurs. Et puis, il faut être là pour s'assurer que la pompe fonctionne.
Parce que peu importe la protection de la maison, il y a tout le temps un peu d'eau qui rentre.
Il y a de l'infiltration, la pompe... s'allume chaque 8 minutes pendant 2 minutes. Alors, elle roule un quart du temps. S'il y a un problème, on a à peu près une heure avant que la cave commence à être un peu humide. On ne veut pas avoir de l'eau dans la cave. Alors, il faut tout le temps être là pour surveiller, pour babysitter la
ouais,
pompe.
Ouais.
Si on a une panne d'électricité, j'ai deux génératrices qu'on doit en allumer une tout de suite en dedans d'une heure pour ramasser l'eau qui s'accumule. On a eu aussi une fois la pompe qui était bloquée par les
c'était des débris. Et puis là, pendant ce temps-là, la pompe, elle roule, mais elle fait pas sa job. Alors là, l'eau continue à monter. La pompe roule tout le temps, et puis c'est là qu'on a un problème. Alors, j'ai installé un radio qui joue de la musique. Quand que la pompe est actionnée, j'entends la musique. Alors, si j'entends la musique pendant plus que 2 minutes, ça veut dire qu'il y a un problème. On a eu une fois la switch et c'est une flotte. Quand ça détecte le niveau d'eau est élevé, ça part la pompe. Le niveau d'eau descend et puis là, elle s'éteint. C'est déjà arrivé que la pompe est restée allumée parce que la flotte était poignée.
Ouais. Ouais.
Alors là, c'est là qu'on a eu des problèmes.
Ouais, ouais, ouais. Mais ça, c'est toujours et nuit, comme tu dors-tu à pleine capacité?
Je dors 8 minutes à la fois. J'ai perdu beaucoup de sommeil, surtout au début, quand on commençait à installer le mur, et puis quand j'avais de la misère avec la pompe aussi. La pompe, ça m'a gardé réveillé pendant des nuits complètes. 3 fois, on a eu des... pas des incidents, mais c'est venu proche. Que si j'avais pas remis la pompe en marche, on aurait perdu tout ce qu'il y a dans la cave.
Wow.
Puis c'est tout le temps à 2-3 heures du matin que ça arrive.
Ouais.
C'est tout le temps comme ça. Un autre problème qu'on avait, c'était quand il y a beaucoup de vent ici, on avait des rafales de 80-90 km à l'heure des soirs. Ça fait des vagues. Et puis les vagues, ils viennent crasher sur le mur. Et puis ça...
Sur le contreplaqué?
Ça revole des fois jusqu'au bardeau du toit, jusque sur le toit. Et puis le vent, ben ici, on a beaucoup de branches. Et puis les fils électriques de Manitoba Hydro sont vulnérables au vent. Quand on a des pannes d'électricité, c'est parce qu'il y avait un coup de vent souvent.
Ouais.
Alors si on manque d'électricité, on va en manquer pendant minimum 3 semaines ou 1 mois. Le temps que l'eau s'en aille et puis que Hydro puisse venir avec leur camion. Ça veut dire qu'il faut avoir des génératrices. J'ai environ 80 litres d'essence. Ça vaut 400 $ ces jours-ci. Alors, il faut tout le temps être préparé pour le pire.
Si on faisait rien, il y aurait de l'eau. Ouais, qui se ramasse, qui finit par se ramasser.
Oui, l'eau viendrait qu'à se ramasser assez pour aller inonder la cave.
Ouais.
Alors, en 2009, il n'y aura pas eu d'eau sur le plancher, mais la cave aurait été complètement remplie. Ça, c'est garanti.
Okay. D'accord.
Moi, j'aime beaucoup parce que j'ai grandi sur cette terre paternelle, mais si j'arrivais de l'Europe ou d'Asie, je ne pense pas que j'achèterais ici, mais c'est parce que mes racines sont ici. Et puis, je pense qu'on devient plus sage aussi pour se dépouiller davantage, pour être moins coincé. Cette année, on s'est fait coincer parce qu'on nous avait tellement dit qu'il n'y en aura pas de flotte. Puis, il n'y en avait pas de flotte. Il n'y en avait pas. Jusqu'à temps qu'il se mette à pleuvoir aux États et ici. Alors, c'est pour ça qu'on a tellement... On a été précipités à faire des travaux très rapidement. Heureusement qu'on avait une corvée d'amis pour nous aider à installer la digue puis aussi à libérer toute la cour. Non, moi j'aime Saint-Jean-Baptiste, c'est ma terre paternelle, mais je comprends que si quelqu'un... Il y a beaucoup de gens qui sont partis, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont partis. Moi je pense qu'il faut qu'on soit... Faut être capable de relativiser, puis je pense que c'est une phrase qui nous est revenue souvent, Jacqueline et moi, dans nos commentaires, quand les gens nous plaignent. On voit ce qui se passe en Ukraine, on voit ce qui se passe en l'inondation en Haïti avec des voitures sur le toit des maisons, on voit ce qui vient de se passer à Gatineau avec 9 morts, avec juste des gros vents. Alors, moi, je relativise, je me dis, mon Dieu, on est quand même bien ici, on peut regarder l'eau monter, on se prépare, et puis on aura de l'aide pour tout nettoyer ça. Puis so what si ça prend un an, tu sais, même si on met toute notre été à ça. On peut venir ici, faire des barbecues, on peut avoir du fun. Nous autres, moi, j'ai toujours eu du fun pendant les flottes, puis après les flottes. Il faut regarder ça comme ça.
T'as-tu le goût de t'en aller des bouts ou t'es quand même content d'être ici?
Oh non, non. C'est ici que j'appartiens. Et puis, c'est une fois chaque 10 ans, espérons chaque 25 ans, une flotte de grosse comme ça. C'est un peu plus gros que d'habitude. Mais non, ça fait partie du terrain. Ben, il faut regarder les belles choses, hein. Même s'il y en a moins ces jours-ci. Ça vaut la peine de regarder une fois que l'eau va être partie. Ça va être un projet. Cette année, je pense qu'on va perdre des litres et des litres de sang parce que les moustiques, ils vont avoir une belle place à se multiplier cette année. Mais ça fait partie de vivre en campagne. J'irai jamais vivre en ville encore.
À la ferme des Baudettes, mes enfants et moi, on y va souvent. Puis c'est vrai qu'entre deux inondations, c'est un petit coin de paradis. Je comprends tout le travail qui a été mis pour faire en sorte que cette parcelle de terre soit magnifique. Mais de temps en temps, il y a une grosse inondation qui vient briser tout ça. Quand on y pense, c'est aussi ça la vie. Vraiment, moi, il y a juste un mot qui me vient en tête, résilience. Les Baudettes, comme tous les gens du coin, ont la capacité de se dire « Eh ben, c'est la vie. On se retrousse les manches, puis on recommence. » Ça a l'air que c'est le prix à payer pour habiter l'extraordinaire vallée de la rivière Rouge.
Toi, Pierrot, quand tu vas avoir la ferme, là, parce que tu vas être assez grand puis que tu vas l'avoir acheté...
Est-ce que tu enregistres ça?
Oui. Qu'est-ce que tu vas inventer pour te protéger des inondations?
Une pompe qui va de cette ferme à la ferme du voisin.
Puis là, ça va faire quoi?
Ça va inonder le voisin, mais pas moi.
D'une flotte à l'autre est une production de Web West Balado, écrite et réalisée par Yann Dallaire. Un grand merci à Denis et Régent Baudette, ainsi qu'à Pierrot et Jacob Dallaire.